T'enregistres au moins.
Moi, mon quartier, j'aime bien le quartier. C'est pourquoi ? Parce que ça me fait penser à mon pays.
Et dans le fond, c'est quoi être féministe ?
Le danger d'une religion, c'est de croire qu'elle a la vérité.
Et à ce que je vois, vous êtes toujours dans la saucisse.
Je ne comprends pas les paroles, seulement le podcast.
Est-ce que je peux prendre une photo, Georgette ?
Oh oui, sur mon meilleur profil.
Avec plaisir.
Et madame, on passe où, là, en fait ?
Bienvenue sur Médiaphone, l'émission citoyenne de Média Animation.
Médiaphone ! Bonjour à toutes et tous et bienvenue à Radio Kawa, l'émission la plus écoutée de la République libre du quartier Saint-Nicolas à Namur. Alors certains diront que nous sommes aussi la seule émission de la République libre du quartier Saint-Nicolas, mais les chiffres d'audience restent excellents. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui concerne tout le monde, un sujet qui nous accompagne du réveil jusqu'au coucher, un sujet qui coûte parfois cher, qui fait souvent parler et qui peut même empêcher de dormir, le logement. Médiaphone ! Bien plus qu'un simple toit, il représente un lieu de sécurité, de stabilité et d'intimité. C'est l'espace où l'on se repose, où l'on partage des moments avec ses proches et où l'on construit son quotidien. Mais dans notre quartier, comme ailleurs, trouver ou garder un logement devient de plus en plus difficile. Hausse des loyers, logements parfois insalubres, manque de logements accessibles, rénovation des quartiers, arrivée de nouveaux habitants, départ d'autres. Derrière ces mots, il y a surtout des histoires humaines. Alors aujourd'hui, pendant une petite heure, on va prendre le temps d'en parler ensemble, sans jargon, sans discours tout fait, avec celles et ceux qui vivent le quartier au quotidien et avec des personnes engagées qui essayent de faire bouger les choses.
Live. Hear our voices, we're standing.
Alors avant de commencer, je vais demander à chacun et chacune autour de la table de se présenter. Je vais vous demander deux choses, votre prénom et votre lien avec ce fameux quartier.
Je suis Vincent, je travaille avec d'autres à la coordination de différentes actions qui sont menées, différents projets qui sont développés dans le quartier. Et puis plus particulièrement, je suis membre du syndicat des locataires LUNE, Locataires Unis Namurois, Namuroises.
Merci Vincent.
Je m'appelle Martine, je suis habitante du quartier depuis 42 ans et je m'implique dans beaucoup de projets dans le quartier.
Bienvenue Martine.
Moi c'est Luc, je suis habitant du quartier, investi dans plusieurs projets au sein du quartier.
Bienvenue Luc.
Moi c'est Manon, je suis née et j'ai grandi dans le quartier. Je me suis impliquée dans beaucoup de projets qu'on a créés ici.
Parfait Manon, bienvenue.
Bonjour, moi c'est Mathilde, je travaille à la maison médicale du quartier des Arsouilles qui se situe dans la rue Saint-Nicolas et je suis animatrice en santé communautaire et donc la question du logement évidemment est un déterminant principal de la santé.
Merci Mathilde. Notre dernier intervenant.
Bonjour, je m'appelle Ewan, je fais partie du quartier Saint-Nicolas et je fais partie du syndicat LUNE.
Bienvenue Ewan. Alors, merci pour ce petit tour de présentation. Donc, moi, c'est Julie et je travaille à la SBL Coquelicot. Et je me réjouis de participer à cette émission avec une thématique si importante. Alors voilà, pour lancer la discussion, j'aimerais commencer par une question simple et je vais la poser à une habitante qui vit dans le quartier depuis de longues années, comme elle nous l'a dit, plus de 40 ans. Martine, quand on parle de logement dans le quartier Saint-Nicolas, qu'est-ce qui vous préoccupe le plus ?
Il y a toujours eu des problèmes au niveau du logement dans le quartier. Il y a 25 ans, lorsque la maison médicale s'y installe, elle fait le constat que de nombreux habitants sont malades à cause de leurs conditions de vie notamment, de leur logement souvent à la limite de la salubrité. C'était ça surtout, d'abord des logements vétustes, trop petits, mal isolés et humides. Il y a quelques années maintenant, est venu se rajouter à cette problématique d'insalubrité un autre problème, au départ pas super visible, mais qui s'accentue davantage aujourd'hui. Ce problème, on le nomme gentrification.
Oui, ça veut dire quoi ça, gentrification ? C'est un terme un peu barbare, Martine.
Oui, barbare, pour nommer un processus qui, petit à petit, transforme un quartier populaire à un quartier plus cher et plus branché, au point que les habitants d'origine ne peuvent plus se permettre d'y vivre et sont forcés de partir. En résumé, les pauvres sont remplacés par des riches sans l'avoir choisi.
Mais très concrètement, comment on l'observe ici dans le quartier ?
C'est une tendance globale des hausses des prix de l'immobilier qui se répercute sur le prix des loyers et en vacances immobilières de plus en plus présentes. Vente, rachat, rénovation, car les loyers sont excessifs par rapport au prix du marché. De nombreux habitants ont déjà dû quitter leur logement et doivent accorder une part toujours plus élevée de leurs ressources pour se loger. Dans notre quartier, il n'y a quasi plus de commerce de proximité et l'associatif peine aussi à trouver des locaux accessibles pour ses activités. Il y a eu des nouvelles constructions et de nouveaux projets aux abords du quartier. Le Novia, avec ses logements haut de gamme, l'installation de palais de justice, des nouveaux lieux culturels plutôt élitistes, la piétonnisation du centre-ville, l'étude de redynamisation du quartier, d'un quartier pourtant déjà bien dynamique. Des projets qui ne répondent pas aux besoins des habitants, qui s'adressent plutôt aux promoteurs, touristes et classes plus aisées. Tout cela participe et renforce ce phénomène.
Merci Martine pour ces explications. Je propose évidemment de continuer de parler de cette problématique vécue dans le quartier et par contre de faire une petite pause musicale pour reprendre un peu son souffle qui fera écho à notre problématique. Bonne écoute.
Il n'y a plus un cop. Plus un toit, à part si t'as des thunes, à ne savoir qu'en faire. Une chambre miteuse, à 1000 balles, et encore faut que tu signes sans râler. Les proprios dictent leurs lois, garantie sans gamin, sans chômeur ni fumeur. Si t'es dans la dèche, t'es dans la merde, et dans la rue y'a plus de place pour les rêveurs. Ils disent c'est la faute à personne, que c'est le marché que ça se régulera. Mais moi je vois que les banques rigolent, et que les agences ramassent à tout va. On dort dehors, on vit à 10, pendant que les riches dorment dans des palaces vides, des maisons pleines mais sans lumière, à croire que les murs valent plus que la misère.
des vieux quartiers pour y foutre des lofts et des Airbnb. Les gamins d'ici, où vont-ils crécher? Pas chez papa qui vit déjà chez mamie. Et toi te fais la file au CPS, mais eux disent qu'il y a plus de budget pour toi. Faut bosser, c'est ça la clé. Même si le travail paye plus le loyer. Et quand tu te plaindras, ils diront quoi? T'avais qu'à mieux choisir ta vie, un gars. Mais choisir quoi quand tout est bloqué? Que tout est cher et tout est grillé. Y'a pas de choix, y'a que des murs et des barreaux en guise de futur. On dort dehors, on vit à 10. Pendant que les riches dorment dans des palaces vides, des maisons pleines et sans lumière. À croire que les murs valent plus que la misère. Les squats ferment, la police passe, et nous on retrouve nos vies en vrac. De la tôle, du carton, un vieux duvet, c'est ça qui nous laisse, c'est ça leur paix. Mais un jour c'est nous qu'on prendra les clés, on ouvrira ce qu'ils ont cadenassé. Et quand on criera sous leur balcon, peut-être qu'enfin ils verront le monde. Mais on va pas attendre leur pitié, c'est l'heure de réclamer ce qu'ils veulent cacher.
Voilà, nous voici de retour sur Radio Kawa. Je vous rappelle que nous discutons ensemble avec des habitants et des personnes investies dans l'associatif du quartier de la thématique du logement aujourd'hui dans notre émission. On vient d'entendre Martine qui vient de nous décrire un peu la problématique et qui vient de nous expliquer un peu ce terme de gentrification qui fait un peu peur pour le moment. Alors, face à tout ce qu'on vient d'évoquer, on pourrait être tenté justement de dire que peut-on faire ou pire, on n'y peut rien. Mais il y a bien une chose qui caractérise ce fameux quartier Saint-Nicolas dans lequel on est aujourd'hui, c'est que ce n'est pas vraiment le genre de la maison. Dans ce quartier, il y a cette idée qu'on est souvent plus intelligent ensemble que chacun dans son coin. Alors, on se rencontre, on discute, on confronte les points de vue, on réfléchit et surtout on agit collectivement. Cette culture de la concertation et de la mobilisation existe ici depuis longtemps, plus de 20 ans même. Elle a permis aux habitants, aux associations et aux acteurs du quartier de porter ensemble de nombreux projets et de défendre les intérêts du quartier lorsque c'était nécessaire. Et évidemment, la question du logement n'échappe pas à cette dynamique. Pour comprendre comment cette mobilisation s'est construite au fil du temps et comment le quartier s'est organisé autour de cette question du logement, je vais maintenant donner la parole à Luc et Mathilde. Luc, Mathilde, racontez-nous un peu comment cette dynamique s'est-elle mise en place à Saint-Nicolas. Luc, je pense que vous êtes investi d'ailleurs dans un groupe d'action qui s'appelle le groupe d'action logement. Dites-nous un peu plus de quoi il s'agit.
Donc le groupe d'action logement est né au début de la concertation il y a quelques années. Et il avait été mis un peu en pause suite à la crise sanitaire qu'on a tous connue. Il a été réactivé en 2022 lorsqu'on apprend que la ville va faire une étude de réorganisation. Ce groupe d'action logement est constitué de membres d'associations et d'un seul habitant, moi. Les membres, la maison médicale des Arceaux, Coquelicot, la SBS Sinex, le Rassemblement du droit à l'habitat, le Centre d'action interculturelle, le Centre permanent pour la citoyenneté et la participation, collectif Kawa et l'ASBL Entraide et Fraternité et Action Vivre Ensemble.
Donc un groupe qui était en force, en tout cas, pour réfléchir sur les enjeux du logement. Et donc je pense, Mathilde, que très concrètement, à partir du moment où le quartier s'inquiète au niveau de la crise du logement et de ce phénomène de gentrification, ce groupe va s'activer et va mettre en place des actions très concrètes pour mieux comprendre d'abord ce phénomène.
Oui, tout à fait. Donc, comme Luc l'a dit, le GA Logement, il existe depuis longtemps. Il est un petit peu réactivé avec Rêve de Quartier en 2018. Et puis vraiment, en 2022, Il y a plein de choses qui se passent dans le quartier. En tout cas, on entend beaucoup de choses. Donc, on a parlé, Martine a fait écho au nouveau quartier Novia et Grand Manège, Palais de Justice. Donc, toute une série de choses qui bougent aux abords du quartier. Et dans un premier temps, ça nous faisait peur. Enfin, on a très vu par exemple que le Novia, c'était uniquement des logements de luxe. On s'est dit ça va faire pression en fait sur le loyer dans le quartier et ça risque de transformer notre quartier, de le rendre plus attractif. Et puis voilà, quand on a des loyers beaucoup plus élevés à côté, eh bien, petit à petit, les choses prennent de la valeur. C'est ça la spéculation immobilière. Et donc, on a commencé à voir en tout cas des situations d'habitants qui devaient quitter, qui avaient des loyers qui augmentaient, des maisons qui étaient, des immeubles qui étaient rachetés, qui étaient laissés vides. Donc, toute une série d'éléments. Et tous ces éléments paraissaient un peu isolés. En tout cas, quand on parle de logement, les gens voient souvent la problématique comme quelque chose de très individuel, comme vécu de manière individuelle. Ce pourquoi ce GA Logement, on parle qu'il n'y a que Luc, mais parce que c'est compliqué, et on en reviendra après avec le syndicat, mais de cette idée de vraiment s'investir, que les habitants en tout cas s'investissent dans cette thématique. Et donc, pour que tout le monde se rende compte que c'est un problème collectif, on a commencé à voyager avec une carte, on a appelé ça la carte de la gentrification, où chacun est venu mettre des petites gommettes, des petites fiches, enfin des petits signaux en tout cas, autour de dans la carte du quartier, pour montrer, ben voilà, là je sais qu'il s'est passé quelque chose, là j'ai entendu que mon voisin... Et en fait, ça a raconté l'histoire de la gentrification pour tout le monde s'est rendu compte que c'était pas du tout un phénomène isolé, c'était quelque chose de collectif. Et vraiment... Là, a démarré quelque chose. On a fait venir aussi Sarah Delatte, qui est venue en fait faire une conférence gesticulée très musicale, très simple en tout cas, pour expliquer ce mot barbare, comme on dit, de gentrification, qui n'était pas très concret pour les habitants. Et puis surtout, on a une rencontre qui est quand même essentielle avec Mathieu Van Krikighem, qui est un chercheur qui travaille cette question de gentrification des quartiers populaires à Bruxelles, et qui est venu faire une balade dans le quartier et qui nous a aidé à mettre tous ces éléments, qui nous a bien confirmé qu'on vivait quelque chose de cet ordre-là, mais surtout aussi quels étaient les moyens de lutter contre ça. Et donc tout ça s'est construit petit à petit avec les habitants et c'est devenu une problématique collective et surtout une problématique collective sur laquelle, tiens, on peut quand même avoir prise. Et ça, je pense que c'était vraiment le but. C'est se dire, ben, c'est pas quelque chose peut-être d'immuable, on va pas peut-être tous devoir partir, on va pouvoir se battre. Il nous a donné trois pistes. La piste de la lutte urbaine, l'idée que c'est des manifestations, c'est une manière de montrer en tout cas de manière officielle et formelle qu'on n'est pas d'accord. Donc on a organisé une manifestation à Namur sur le logement. On a fait une campagne d'affichage avec des affiches roses qui ont été un peu partout dans le quartier. Ensuite, il nous a dit que c'était aussi tout ce qui était logement public, logements sociaux. Par exemple, les Marolles à Bruxelles luttent, enfin, eux aussi sont grignotés par la gentrification, mais ils réussissent à combattre parce qu'il y a du logement social. Et le troisième, qui était le plus intéressant, c'est l'occupation populaire de l'espace. C'est se dire que tant qu'on va occuper l'espace de ce quartier, tant qu'il y aura en fait des choses qui se passent et qui font que ce quartier nous appartient aussi en tant qu'habitants, peut-être locataires et peut-être précarisés, mais c'est notre terre aussi. Tout ça, ça va nous aider aussi à lutter. Et donc on était en fait contents qu'il y ait la foire une fois par an chez nous. On était ravis que le petit kawa puisse servir à ça aussi tous les mercredis matins, d'être dans la rue aussi, par exemple, il y a la mosquée albanaise et puis il y a tous les centres culturels albanais. C'est vrai que ça fait du bruit, c'est vrai que c'est un petit peu sur le trottoir, mais en fait, ça fait vivre le quartier. Et donc, ça nous a rendu. On s'est dit, en fait, il y a déjà plein de choses qui existent et qui vont pouvoir continuer à nous faire survivre et surtout nous battre.
Donc, il y a une prise de conscience qu'il y a une problématique, mais il y a aussi de l'espoir de se dire qu'il y a des moyens de lutter contre ça. Et donc, le quartier va s'organiser et en tout cas se rend compte qu'il y a déjà des choses qui existent et qui vont permettre peut-être d'atténuer le phénomène, en tout cas.
Tout à fait. Et alors, en parallèle à ça, donc, Luc disait que le GA Logement était réactivé avec l'étude de redynamisation. Donc ça vient surajouter souvent dans un quartier qui est en voie de gentrification. Les villes, comme on dit, comme ça, des études pour redynamiser, alors qu'on est quand même déjà dynamique. Et en fait, pour adapter le quartier peut-être à une population plus aisée. Et donc nous, on s'est dit, il faut absolument qu'on se préoccupe de cette étude et que ce soit une réelle participation des habitants et que, en fait, cette étude réponde aux besoins des habitants actuels et pas des futurs habitants. Et donc ça nous a pris quand même aussi beaucoup de temps. On s'est beaucoup préoccupé de cette étude. On a beaucoup interpellé la ville parce que la participation n'est pas toujours optimale. Et on a réussi aussi à mettre dans cette étude et à faire reconnaître par la ville le phénomène de spéculation immobilière et donc de gentrification. Aujourd'hui, le GA Logement, donc il continue sur toutes ces pistes-là et il est, par exemple aujourd'hui, très préoccupé par l'histoire d'un bâtiment qui est revendu par le CPS. Donc comme je le disais, le logement public est essentiel et donc pour nous, la revente de ce bâtiment par le CPS, c'est vraiment une dépossession supplémentaire de notre quartier. Mais on en parlera juste après.
Oui, un grand merci Mathilde pour toutes ces explications très riches. Évidemment, on va continuer d'en parler. Mais je propose de faire une petite pause musicale pour reprendre son souffle avec les Cowboys Fringants et la chanson « Des maisons toutes pareilles ».
J'ai mon 5000 pieds carrés, la grosse pion dans un quartier, flat comme le fond d'une bouteille, où les maisons sont toutes pareilles. Les symptômes prémensuels d'une faillite trop personnelle, un set d'outdooring dans le salon, la pancarte avance sur le gazon. J'ai une ex-femme qui m'en veut, les enfants une semaine sur deux, puis un psy vraiment trop classe qui m'écoute, me plaint pour 100 piastres, sûr que je ferai broyer personne, avec le spleen des pays riches, dans une ère qui distorsionne, c'est tout le monde qui a le bonheur qui criche. Mais dès que le jour s'éveille, sur les maisons toutes pareilles, la vie qui reprend son cours, oublie le compte à rebours. Whoa. Et comme des milliards d'humains, je me ferai croire que tout va bien, tant que se lèvera le soleil, sur les maisons toutes pareilles. Le semblant de rien, et je donne mon accord tacite au triomphe d'un monde qui s'effrite. Climat fucked up, écocide, c'est donc ben plate d'être lucide. Je préfère mettre la switch off en attendant la catastrophe. Mais que le jour s'éveille sur les maisons toutes pareilles, la vie qui reprend son cours, oublie le compte à rebours. Whoa. Soleil, dans les maisons toutes pareilles, puis que je suis tout seul dans mon froc, face à face avec mon époque, je l'entends le glas qui sonne, et c'est pas vrai que je m'en contrefiche, dans une ère qui distorsionne, c'est tout le monde qui a le bonheur qui griche. Pareil.
Alors voilà, on vient d'entendre avec Mathilde comment les habitants et les assos du quartier se sont organisés pour comprendre ce qui se passait et analyser un peu les mécanismes à l'œuvre et surtout construire des réponses collectives face aux difficultés de logement. Et à force de se rencontrer, de discuter, de se rendre compte que beaucoup vivaient les mêmes difficultés, une idée a émergé dans le quartier Saint-Nicolas. Et si les locataires s'organisaient eux aussi ? Donc pas chacun dans son coin, mais tous ensemble. C'est comme ça qu'est né le syndicat des locataires, une initiative originale et très concrète. Alors justement, qu'est-ce qu'un syndicat des locataires ? Comment ça fonctionne ? Pourquoi le quartier a décidé de créer ce projet ? Et qu'est-ce que ça change pour les habitants ? Alors pour répondre à toutes ces questions, je vais donner maintenant la parole à Vincent et ensuite à Manon. Vincent, racontez-nous un peu cette aventure de quartier.
Le syndicat des locataires, ben c'est des locataires qui s'organisent pour défendre leurs droits au logement. Et donc, il y a ce volet, effectivement, de défense des droits des locataires vis-à-vis de toutes sortes d'acteurs qui sont propriétaires ou qui les représentent, hein, agences immobilières sociales, bailleurs privés, immobilières, etc., etc. Oui, parce qu'il faut savoir qu'effectivement, il y a une législation qui régit la relation entre locataire et propriétaire ou bailleur, mais que cette législation n'est pas toujours respectée, et en tout cas respectée par les bailleurs, justement. Et donc, quelquefois, il faut leur rappeler qu'effectivement, les locataires, c'est pas parce qu'ils sont locataires qu'ils n'ont pas de droits. Les locataires ont des droits. Et donc, on peut s'organiser pour les faire respecter. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, et ça s'inscrit très bien dans la dynamique d'action du groupe d'action logement et de tout ce qui se fait ici dans le quartier, c'est de se rendre compte que, en fait, ce que chacun vit dans son coin, ce que chaque locataire peut vivre dans son coin, ben en fait, c'est vécu par beaucoup de personnes. Le syndicat, c'est aussi faire en sorte qu'un problème qui est vécu individuellement puisse être aussi une question collective à poser et à la poser en termes politiques pour effectivement apporter une réponse collective à un problème collectif. C'est aussi le syndicat un appel à la solidarité et à la mobilisation. À savoir qu'effectivement, on n'est pas non plus tout seul à se réunir et à faire des choses, mais on a besoin des autres pour être appuyé dans ce qu'on revendique, et aussi on pense que les autres ont besoin de nous.
Et donc je me demandais très concrètement comment les choses vont s'organiser au sein du syndicat. Quelqu'un vient avec une problématique personnelle et on tente ensemble de trouver des solutions, ou on va plutôt essayer de voir les problématiques qui sont touchées, qui touchent plusieurs personnes.
C'est les deux parallèlement, mais aussi c'est les deux qui peuvent s'articuler. C'est-à-dire que c'est clair qu'une mobilisation syndicale peut s'inscrire dans la lutte contre la gentrification. C'est une façon de rendre collective plutôt une question qui est vécue individuellement, et donc de pouvoir, à travers l'action, réfléchir à des mesures et à des revendications très concrètes pour lutter contre la gentrification. Et puis c'est vrai aussi que le syndicat, par essence quand même, sert à la défense de ses membres.
Donc plus il y a de membres, plus le syndicat sera fort aussi pour défendre les problématiques de chacun.
Et pour avoir une force de proposition de choses qui vont à l'encontre justement des problèmes posés.
Merci Vincent pour ces explications. Et je vais passer la parole à Manon, qui est donc habitante du quartier depuis qu'elle est toute petite, et qui elle aussi a rejoint ce syndicat. Et donc je voulais savoir, Manon, qu'est-ce qui t'a motivée à rejoindre les assemblées du syndicat des locataires ?
Moi, j'ai rejoint le syndicat il y a un an. On m'a recrutée pendant le petit kawa. Et je me suis dit que c'était bien pour poser des questions en tant que locataire, pour se renseigner plus sur nos propriétaires, parce qu'on ne connaît pas forcément nos droits. Et donc là, ici, c'est vraiment un syndicat par les locataires, pour les locataires.
Donc merci Manon, merci Vincent, on comprend un peu mieux maintenant cette dynamique liée au syndicat des locataires. On va continuer d'en parler, mais juste avant, une petite pause musicale avec Marcel Mouloudji et justement sa chanson « Mon quartier ».
quartier est banal, des mômes jouent dans les rues, il y a des filles, il y a des gars qui vont bras dessous, bras dessus. Là-bas, il y a le canal, sur les quais on cavale, il y a les buttes d'où l'on voit tout Paris et au-delà. L'accordéon dans l'air, une nostalgique. C'est pour moi la plus belle des musiques. Je ne sais pas pourquoi je me sens le cœur nu en écoutant l'accordéon qui pleure dans les rues. Mon quartier est banal, cinéma, petit bal, des couples d'amoureux terriblement heureux. Les gens qui m'ont connu quand j'étais tout petit, les gosses que je connaissais qui maintenant ont grandi. L'accordéon gémit le long des rues. Le vieil aveugle chante les morceaux connus. C'est comme si c'était mon enfance perdue que j'entends tout le temps se plaindre dans les rues. C'est comme si c'était mon enfance perdue que j'entends tout le temps se plaindre dans les rues.
Ben voilà, de retour dans Radio Kawa. Comme vous le savez, on parle logement aujourd'hui, une thématique qui doit intéresser beaucoup de monde, vu qu'on a tous un logement, ou en tout cas, on souhaiterait tous en avoir un. On comprend mieux maintenant, au fil de l'émission, les problématiques vécues dans le quartier. Et ici, plus précisément, on comprend un peu mieux pourquoi un syndicat des locataires a vu le jour et en quoi il constitue un outil très concret pour permettre aux habitants de ne plus faire face seuls, justement, à ces difficultés liées au logement. Avant de poursuivre, on va parler un peu plus concrètement, parce que je suis certaine que parmi nos nombreux auditeurs et auditrices, certains se reconnaissent dans ce qui vient d'être dit et qui se demandent peut-être, d'accord, mais comment ça marche ou encore, comment puis-je rejoindre cette initiative, ce fameux syndicat des locataires? Ewan, dites-nous tout.
Si vous voulez rejoindre le syndicat Lune des locataires, on sera réunis le premier mercredi du mois, 18h à 19h30. Dans le bâtiment du Cinex, qui s'appelle le local Poulalier, une fois par mois.
Et comment ça se déroule, une assemblée, Ewan?
Dans une ambiance conviviale, dans une bonne ambiance, et on parle des problèmes de personnes qui nous posent des questions pour leur logement et tout ça.
J'ai même entendu dire que parfois il y avait des apéros.
Oui, quand même une bonne nouvelle.
On la célèbre.
Ouais.
Super. Merci Ewan. Donc tous les premiers mercredis du mois dans le local de quartier, l'assemblée du syndicat. Et ce local de quartier s'appelle le Poulalier, je trouve ça sympa de le préciser. Et c'est donc au 84 de la rue Saint-Nicolas, avec une entrée par la rue Ponty qui est piétonne. N'hésitez pas à les rejoindre, il y aura peut-être un apéro lors de la prochaine assemblée. Qui sait ?
Back in the day, or as we learned, a man was not considered to be
fully grown.
Has he not gone beyond the hills? Has he not crossed the seven seas?
Yes, seven seas at least.
Now all them jokers kept around, just like a scarecrow's in hometown.
Yes, scarecrow's in hometown.
From screen to screen, them traveling. But I'm a wanderlust king. I stay on the run.
Ça fait donc un an, Martine, que ce syndicat a vu le jour dans le quartier. Je sais que durant cette période, il y a eu pas mal d'actions qui ont été menées et des petites victoires aussi. Je trouverais ça chouette qu'on y voit un peu plus clair pour concrétiser un peu les choses. Donc, est-ce que vous pouvez un peu nous parler d'une des victoires, entre autres, qui a été remportée par le syndicat ?
Je vais vous parler du GLN. Donc, c'est un gestion logement Namur qui... après plusieurs rencontres, on a pu faire débloquer des cautions parce qu'ils gardaient les cautions. Alors, pendant 4 ans qu'ils ont. Donc voilà. Ils ont régularisé aussi des charges de sortie. Et aussi, on a pu avoir aussi, lors de fin de bail, les locataires recevaient une lettre de renom. Et le bail était renouvelé. Car ça mettait les locataires très dans l'angoisse parce qu'ils ne savaient pas s'ils devaient partir ou rester. Alors là, on a pu avoir une lettre un peu plus correcte quoi, pour les locataires.
Donc très concrètement, il y a plusieurs locataires du quartier qui sont venus en assemblée expliquer leurs problématiques en lien avec gestion logement Namur. Et donc le syndicat a décidé de vraiment de porter la voix de ces personnes et de rencontrer...
On a fait un groupe GLN exprès pour ça.
Il y a eu un dialogue qui s'est vraiment...
Oui, ça a été.
Super.
Ils ont écouté.
Ça, effectivement, c'est pour un syndicat qui fête ses 1 an, c'est quand même déjà une super victoire. C'est chouette de le souligner. Je pense qu'il y a eu des actions un peu plus symboliques aussi qui ont été menées par le syndicat. J'ai entendu parler d'une action en lien avec les souris, Manon. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe avec les rongeurs dans le quartier Saint-Nicolas?
On a eu une infestation de rongeurs, c'est-à-dire que quasi tout le quartier était infesté de souris, que ce soit les appartements au rez-de-chaussée comme les appartements au troisième étage, etc. Donc on a décidé de faire une action souris le 25 mars dernier pour prévenir et sensibiliser sur l'impact que ces souris avaient sur le quotidien, parce que ça devenait invivable. On se retrouvait avec des cadavres de souris chez nous si on mettait des pièges, ou alors on les laissait vivre et on entendait du bruit toute la nuit quand elles partaient grignoter dans les réserves.
Donc un sujet important dans le quartier et qui a réuni pas mal de monde le 25 mars, parce que je pense que beaucoup de gens se sont rendus compte qu'ils étaient rassurés de savoir qu'ils n'étaient pas tout seuls à vivre cette problématique d'invasion de rongeurs. Est-ce qu'il y a des choses qui sont ressorties de cette action, Mathilde, par rapport à l'invasion des rongeurs?
Donc en effet, on s'est rendu compte que beaucoup de gens vivaient cette problématique-là et que ça parlait beaucoup aux gens, en tout cas de se dire que, qu'en fait peut-être on peut aussi agir. Et donc on a fait une action, c'était principalement pour que les personnes se rendent compte qu'elles ne sont pas tout seules à vivre ça, parce qu'en fait c'est pas simple de vivre une problématique de souris chez soi. Souvent on ramène ça au fait que le locataire serait pas propre ou ne gérerait pas bien ses déchets, ses poubelles, etc. Et donc je pense que dans un premier temps c'était les recenser, c'était un peu un jeu, chacun est venu un peu avec le nombre de souris qu'il avait croisé chez lui. On était arrivé sur la journée, on était à 400 souris observées sur les locataires qui sont passés, et divers et variés en tout cas, et on a construit un diagnostic ensemble. On s'est posé la question, mais tiens, c'est quoi les causes chez soi, chacun dans sa situation individuelle, qu'est-ce qu'il pense être les causes de cette problématique de souris, et les conséquences. Et alors c'est très intéressant, enfin c'est très intéressant dans une situation qui est très problématique, de se rendre compte qu'en fait ce problème de souris, beaucoup de gens la vivaient parce qu'à côté de chez eux, il y avait des logements vides, des bâtiments vides. On parle de gentrification, c'est ça aussi, c'est le signe de la spéculation où les bâtiments, on attend qu'ils prennent de la valeur. Et ils passent l'hiver plus facilement, les souris, dans le quartier. Et donc, en fait, cette augmentation du nombre de souris dans le quartier est liée à la situation problématique de la gentrification. Évidemment, de ces causes, on s'est dit, il faut en trouver sur lesquelles on peut agir. D'où l'idée de travailler en fait à quelque chose de très concerté entre la ville, le locataire et les propriétaires. On sait aussi que c'est un problème de santé publique, la question des souris, et que donc les villes peuvent mettre la pression en tout cas sur les propriétaires pour agir. Et on va pas s'arrêter là, puisque l'idée c'est de faire du porte-à-porte pour rassembler encore plus de personnes qui vivent la problématique. C'est aussi une manière de faire la pub dans notre syndicat, en tout cas la promotion, et de ramener des nouveaux membres, et de développer une action plus concertée l'année prochaine. Pourquoi l'année prochaine? Parce que c'est en fait il faut s'attaquer à cette problématique pendant l'hiver et surtout au printemps. La question des souris, en fait, c'est un petit peu, ça va être un petit peu notre fil conducteur pour recruter de nouveaux membres. Alors il y aura aussi le numéro 8 dont on va parler juste après, mais pour relancer le porte-à-porte, on n'en a pas parlé, mais le syndicat des locataires, ça se lance, en tout cas ça est basé sur une théorie qui s'appelle le community organizing, qui parle par la colère. En tout cas, on va chercher la colère chez les personnes, et à partir de cette colère, on essaie de la transformer en mouvement, en action, et ça démarre par du porte-à-porte et par du travail de rue.
Aller à la rencontre des gens et de leurs problématiques directement chez eux.
Voilà, c'est ça.
Ok.
Donc, c'est pour ça que, en tout cas, ça va être notre thématique pour relancer le porte-à-porte.
Il y a du pain sur la planche pour la suite des actions du syndicat et pour le recrutement. Donc, très bien. Merci, Mathilde. Du coup, je vous propose de faire une petite coupure musicale avec une chanson justement en lien avec votre action ici qui a été menée dans le quartier. C'est la fameuse chanson « Une souris verte ». Mais avec une version viking que nous apprécions énormément, avec l'interprétation d'Ingrid Courrèges. Bonne écoute.
Yeah. courait dans l'herbe. Je l'attrape par la queue, je la montre à ces messieurs. Ces messieurs me disent, trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau, ça fera un escargot. Tout chaud, tout chaud, tout chaud, tout chaud, tout chaud, tout chaud. Par la queue, je la montre à ces messieurs me disent, trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau, ça fera un escargot.
Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette version survitaminée d'une souris verte. En tout cas, ici, dans le studio, c'était l'ambiance. Ewan était debout sur la table. Alors voilà, depuis le début de cette émission, on parle des difficultés liées au logement, mais aussi des réponses collectives que les habitants ont construites pour y faire face. L'une des mobilisations les plus fortes et les plus symboliques de ces derniers mois dans le quartier, et Mathilde en a parlé très rapidement tout à l'heure, c'est la revente d'un bâtiment du CPAS. Qui est revendu au plus offrant et qui, évidemment, du coup, va questionner énormément le quartier. Je n'en dis pas plus, je vais laisser la parole à Vincent qui va un peu nous expliquer comment le quartier vit cette revente de bâtiments.
C'est donc le CPS qui revend un bâtiment qui lui appartient, donc un bâtiment public, dans un quartier qui est en voie de gentrification. Et on sait qu'effectivement, ça a été rappelé tout à l'heure, une de façon de résister à la gentrification, c'est effectivement l'existence et la création de logements publics, logements sociaux ou logements gérés par des agences immobilières sociales ou autres. On se rend bien compte que ce n'est pas parce qu'on ne vendra pas ce logement que ça va régler le problème de la gentrification, mais c'est très symbolique d'un pouvoir public qui, finalement, plutôt que d'assumer un rôle social, vend au plus offrant et s'adapte tout à fait à la loi du marché immobilier, qui est bien sûr, comme toujours, la loi du plus fort. Et donc, pour nous, vendre ce logement, c'est effectivement rentrer dans le jeu de la gentrification. Et on pense que le CPS, mais tout organisme public, doit pouvoir s'inscrire en faux contre cette logique-là. Cette façon de voir a été admise dans les conclusions de l'étude de la ville elle-même sur la redynamisation du quartier, donc c'est à mettre en avant aussi. Et puis de toute façon, c'est clair aussi que les pouvoirs publics, en se débarrassant de leur bijou de famille, se déforcent tout à fait par rapport au phénomène dont nous sommes victimes.
J'imagine que le CPS va utiliser des arguments financiers, le fait que pour l'instant la conjoncture financière n'est pas bonne. Qu'est-ce que le quartier pourrait proposer justement alors pour contrer cette vente au plus offrant?
Et donc, en fait, nous proposons, quand je dis nous, c'est le groupe d'Action Logement dont nous avons parlé et appuyé par le syndicat LUNE, justement pour rencontrer une problématique beaucoup plus collective. Nous proposons la création d'une coopérative qui puisse prendre en charge la rénovation d'abord et la rénovation de logements.
Il y a eu vraiment une vraie recherche dans le quartier pour trouver des alternatives.
Oui, puisque nous avons travaillé avec différents partenaires opérateurs de logements sur Namur. Nous avons travaillé avec un bureau d'architecture qui nous a aidé à y voir un peu plus clair dans les aspects plus techniques du bâtiment. Et puis on a travaillé avec une coopérative Koala qui nous a permis aussi d'élaborer différents scénarios à la fois de rénovation en termes de programme architectural et en pouvant d'autre part les budgétiser pour réaliser la chose si elle est possible ou pas.
Ok, donc encore un bel exemple d'une organisation collective pour essayer de trouver des réponses alternatives
voilà.
À un
et
problème.
Donc, oui, et donc je tiens à dire que la chose est possible en fait. Mais à condition qu'effectivement le CPS ne s'entête pas à demander un prix exorbitant par rapport pour cet immeuble-là.
Ok, et donc la suite très concrète, c'est de réouvrir le dialogue avec le CPS pour pouvoir faire...
Le CPS, effectivement, on a guère d'écho. Et donc, parallèlement à ça, on estime que c'est important de pouvoir essayer de réinterpeller quand même de façon plus individuelle les conseillers et conseillères de l'action sociale qui ont un certain pouvoir de décision et aussi de pouvoir médiatiser la mobilisation et les revendications que nous avons.
Donc, on comprend bien que cette problématique de revente est très symbolique pour le quartier par rapport à tout ce qu'on vient de dire pendant l'émission. Merci Vincent, on se tiendra évidemment informé de la suite de ce projet. Parce qu'évidemment, là, on arrive tout doucement au terme de notre émission Radio Kawa. Aujourd'hui, on a donc parlé de logement et des difficultés bien réelles, de gentrification, de droits parfois fragilisés, mais aussi et surtout de mobilisation, de solidarité et d'action collective. Car s'il y a une chose que cette émission nous rappelle, c'est que la force du quartier Saint-Nicolas ne réside pas seulement dans ses bâtiments et ses rues, mais c'est avant tout dans le lien qui existe entre les habitants. Et c'est vrai que dans un monde où on a parfois tendance à vivre chacun derrière sa porte, notre quartier continue de faire le pari de la rencontre, de la discussion et de l'entraide. Et pour celles et ceux qui auraient envie de participer davantage à la vie du quartier, de nombreux espaces existent. On peut rejoindre les assemblées des habitants qui ont lieu tous les deux mois, plus ou moins. Participer à des groupes d'action, s'impliquer dans des projets collectifs ou simplement venir partager un petit café lors du petit kawa le mercredi matin. Et justement, pour clôturer cette émission, Martine, je te propose de nous expliquer un petit peu ce petit kawa et pourquoi c'est si important qu'il existe dans le quartier.
Le petit kawa, c'est vraiment l'endroit idéal de se rencontrer entre voisins et de créer du lien. Et surtout, quand il y a des projets, on les sollicite pour qu'ils donnent leur avis. Donc, c'est vraiment l'endroit idéal pour créer...
C'est un projet qui est tenu par des habitants, c'est ça ?
Faire un collectif kawa, oui. D'une dizaine de personnes, ça fait 13 ans qu'on est là. Bon, au début c'était un peu compliqué, mais maintenant on est bien rodé, tout roule bien quoi.
Et ça se passe où ce petit kawa, Martin ?
La rue Ponty, tous les mercredis matins de 9h à 11h.
Le rendez-vous est pris, je pense que si vous avez envie d'avoir plus d'infos sur tout ce qu'on vient de dire ou sur tout le reste, n'hésitez pas, c'est un bon lieu d'information, le petit kawa du mercredi. Merci pour votre écoute, merci à toutes les personnes qui ont participé à notre émission Radio Kawa, l'émission la plus écoutée de la République libre du quartier Saint-Nicolas. À la prochaine pour une autre émission avec une autre thématique, jeunesse, vivre ensemble, folklore, on ne sait pas encore, mais restez attentifs. Bonne journée à tous et toutes.
Du fond de ma cité HLM, jusque dans ta campagne profonde, notre réalité est la même, et partout la révolte gronde. Dans ce monde on n'avait pas notre place, on n'avait pas la gueule de l'emploi, on n'est pas né dans un palace, on n'avait pas la CB à papa. SDF, chômeurs ouvriers, paysans, immigrés sans papier, ils ont voulu nous diviser, faut dire qu'ils y sont arrivés. Tant que c'était chacun pour sa gueule, leur système pouvait prospérer. Mais fallait bien qu'un jour on se réveille et que les têtes se remettent à tomber. On lâche rien, 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 on lâche rien. Ils nous
l'inégalité. Et comme des cons les a crus. Démocratie fait-moi marrer. Si c'était le cas on l'aurait su. Que pèse notre bulletin de vote face à la loi du marché. C'est con mes chers compatriotes. Mais on s'est bien fait baiser. Et que pèsent les droits de l'homme face à la vente d'un Airbus. Au fond y'a qu'une seule règle en somme. Se vendre plus pour vendre plus. La République se prostitue sur le trottoir des dictateurs. Leurs belles paroles on n'y croit plus. Nos dirigeants sont des menteurs. On lâche rien. 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 C'est tellement con, tellement banal. De parler de paix et de fraternité. Quand des SDF crèvent sur la dalle. Et qu'on mène la chasse aux sans-papiers. Qu'on jette des miettes aux prolétaires. Juste histoire de les calmer. Qu'ils s'en prennent pas aux patrons millionnaires. Trop précieux pour notre société. C'est fou comme ils sont protégés. Tous nos riches et nos puissants. Y'a pas à dire, ça peut aider. D'être l'ami du président. Chers camarades, chers électeurs. Chers citoyens, consommateurs. Le réveil a sonné, il est l'heure. De remettre à zéro les compteurs. Tant qu'il y a de la lutte, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a du combat. Tant qu'on se bat, c'est qu'on est debout. Tant qu'on est debout, on lâchera pas. La rage de vaincre coule dans nos veines. Maintenant tu sais pourquoi on se bat. Notre idéal, bien plus qu'un rêve. Un autre monde, on n'a pas le choix. On lâche rien. 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 On lâche rien, 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 on lâche rien.
Toutes nos émissions en podcast sur la plateforme mixcloud.com/media-animation. Si vous souhaitez participer à la réalisation d'une émission, n'hésitez pas à nous contacter par email à mediaphone@media-animation.be. À bientôt.